Table.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découvert, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianzetto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute !
Nous voici donc dans la deuxième partie de cet épisode sur la découverte du métier de vigneron nature. Dans le premier épisode, j'ai interrogé Jean-Claude Chanudet et Nicolas Carlier sur la définition du vin nature, afin de bien comprendre de quoi on parle. Nous sommes aussi allés dans les vignes, pour qu'ils puissent nous expliquer pourquoi cette monoculture est si fragile et le travail nécessaire pour s'en occuper. Dans cette seconde partie, nous allons tout d'abord aborder la question de la rentabilité du métier. J'ai posé la question « Peut-on être rentable et vigneron ?» Retour au domaine de Château-Cambon, en compagnie de Jean-Claude et Nicolas.
Vous avez toujours été rentable, ou en tout cas à l'équilibre ?
Pas les premières années, parce que ça a été une démarche de qualité. Bon, quand on a repris le domaine en 95, il y avait pas de clients, il y avait rien, donc pendant quelques années on a galéré, mais on essaye d'être en équilibre financièrement, ça va, bon an mal an, si on n'a pas de problèmes climatiques qui nous impactent, ça va.
2021 a été une année très difficile, justement. Est-ce que ça a été très difficile aussi financièrement ?
C'est-à-dire que nous, on a un peu d'historique. Donc, on a eu une récolte moitié de récolte, même pas. Donc, c'est bien sûr que c'est difficile, mais ça, c'est dans le milieu viticole, il faut toujours avoir une poire pour la soif, pour pouvoir faire tourner la boutique. Donc, nous, on a essayé de bon an mal an, faut pas que les années comme la 2021 s'empilent les unes sur les autres, mais de temps en temps, on se débrouille pour arriver à passer à travers les. C'est pas facile, mais on arrive financièrement à équilibrer le domaine.
Est-ce que le fait d'être en vin nature, ça aide ?
Ça aide, oui, parce qu'on est dans un marché déjà de niche. Donc, les gens qui viennent chez nous connaissent, connaissent notre façon de travailler, connaissent nos produits, et donc on a une clientèle et on vend quand même relativement plus cher que la moyenne des vins de nos collègues qui sont pas en nature ou en bio. Donc, ça va. Et puis on a voilà, quand c'est le bénéfice d'avoir un historique. Moi, j'ai plus de 70 ans. Ça fait des années qu'on se bat dans un milieu où il y avait à l'époque personne. Donc on a pris entre guillemets les places et on a entre parenthèses un nom qui commence à un petit peu à se. On n'est pas dans Romanée Conti, mais on commence à avoir un petit nom qui nous permet de bien vendre nos produits, quoi. Voilà.
Et quelqu'un comme Nicolas qui voudrait s'installer, un jeune vigneron, est-ce que c'est difficile de trouver des terres, de s'installer ?
Alors là, c'est un autre débat, ça. La viticulture, pour s'installer, quand on n'a pas au départ un pied dans la terre avec peu de matériel, c'est très compliqué parce que le foncier, malgré par rapport à d'autres régions, il est quand même relativement élevé, quoi. Le foncier, aujourd'hui, si vous voulez acheter des vignes à Morgon, c'est tout de suite, c'est 70 000, 80 000 euros l'hectare. Donc, si vous voulez acheter des vignes, c'est compliqué de s'installer. Très compliqué. Par contre, il y a la possibilité de s'installer avec le fermage, avec des locations de terre, tout ça. Mais c'est difficile. Dans la viticulture, c'est un métier qui est ingrat parce qu'on gagne jamais d'argent dans la viticulture. Quand vous avez un domaine, vous démarrez un domaine, vous gagnez, dès que vous avez gagné un petit peu d'argent, si à la fin de l'année il y a un résultat, ce résultat souvent il est attribué à un achat de matériel pour vous faciliter la vie. Toute votre vie professionnelle dans la viticulture, vous pouvez arriver à en vivre, mais à faire de l'argent, c'est difficile, quoi. On fait de l'argent quand on vend le domaine à la fin de sa vie professionnelle, si on a la chance de le vendre. Mais tout le long de sa vie, on a tellement de possibilités d'améliorer et d'avancer pour la qualité et avec la qualité, qu'il y a toujours quelque chose à acheter, à améliorer dans la vinification. C'est un métier qui... C'est pour ça que c'est des métiers réservés à la passion, quoi.
Nicolas, toi, tu as envie de pouvoir t'installer et d'acheter des vignes ?
Bah, moi, j'aimerais bien. Après, là, moi, j'ai une chance ici à Cambon, c'est que... je fais le métier de vigneron, mais avec un salaire à la fin du mois, quoi. Et ça, c'est quand même hyper confortable. Ensuite, c'est vrai qu'il va y avoir un moment où j'aurais peut-être envie de voler de mes propres ailes, ou faire ma cuvée, ou faire quelque chose. Mais là, c'est pas décidé, quoi. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de... Enfin, voilà, c'est pas décidé. On verra.
Jean-Claude Chanudet et Nicolas Carlier nous ont donc bien expliqué que la rentabilité, comme ailleurs en agriculture, n'est pas évidente. Notamment car la vigne pousse très lentement et qu'elle coûte cher. Être vigneron nature constitue toutefois un avantage compétitif aujourd'hui. Il restait maintenant à comprendre le processus de vinification. Personnellement, je n'y connaissais rien avant cet épisode, alors j'ai voulu comprendre. Discussion avec Jean-Claude et Nicolas dans la cave de l'exploitation, autour d'une dégustation de leur vin.
Alors là, on est dans une cave où il y a des foudres, c'est-à-dire des gros tonneaux, pour ceux qui ne connaissent pas le mot foudre, qui font, on en a trois qui font 7000 litres, un peu plus de 7000 litres, et puis trois qui font en gros 6000 litres, voilà. Donc c'est des foudres qui sont assez âgées, qui ont été achetées, je pense, dans les années 50, 60, qui venaient de la bière de l'Alsace. Ça, c'est des foudres qui ont été quand la bière a changé de récipient. Donc le Beaujolais a beaucoup eu de foudres qui venaient de la bière, quoi. Ouais, c'est tout en bois, du joli chêne. Des foudres qu'on se sert tous les ans. Donc, on fait une partie vinification, donc, en raisin entier. Fermentation raisin entier, en fermentation carbonique. Et dès que les vins sont en fin de fermentation, on les amène ici pour la fin de fermentation se fait dans les foudres.
Est-ce que la qualité des foudres va jouer, sur la qualité du vin?
Alors là, mais c'est des foudres qui ont déjà beaucoup d'années, donc on n'a pas ce côté bois qu'on pourrait avoir sur des... Tu veux, je vais boire tout seul, moi?
Ah, bon. Oh.
Je vois qu'il amène qu'un verre. Oui, mais en fait, là, on n'a pas d'entrant. Dans nos façons de travailler, on évite le côté chêne du vin. Donc c'est des foudres qu'on peut-être 100 ans. Donc on n'a pas sa part de... Par contre, la forme du foudre, elle fait que les vins s'éclaircissent mieux, vivent mieux, quoi. Voilà. Santé pour 100 ans.
Pour 100 ans ?
Bah oui. Il me reste plus que 30 ans à travailler.
Qu'est-ce qu'on boit, là ?
C'est un Beaujolais blanc.
De 2021.
Voilà.
L'année horrible.
Oui. C'est une année qui a été très difficile, oui, pour des raisons climatiques. On a eu beaucoup de pluie, beaucoup de maladies, on a eu la gelée. On a empilé toutes les misères que la vigne peut connaître. Moi, j'ai jamais dans ma dure vie, j'ai jamais eu à avoir autant d'éléments climatiques que le mai 2021.
Ouais, une année de merde.
Voilà, une année de merde.
Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a dans notre verre et comment il a été vinifié, ce vin ?
Ce qu'on a dans notre verre, c'est un Beaujolais blanc, c'est un Chardonnay à 100%. C'est les vignes dans lesquelles on était tout à l'heure. Donc c'est des très jeunes vignes, c'est leur première année de production. Voilà, donc ont été vendangés à maturité. Donc ensuite les raisins sont pressés. Donc on met le jus de raisin du coup dans une cuve. On fait ce qu'on appelle le débourbage, c'est-à-dire qu'en fait pendant 24 heures, 36 heures, 48 heures, on va laisser en fait tous les petits dépôts dus au pressurage se déposer au fond de la cuve et on va venir tirer simplement le clair quoi, ce qui est au-dessus du dépôt. Et le dépôt ben on le jette pas vraiment mais bon, on le met en tout cas on l'utilise pas pour faire du vin. Voilà. Ensuite, eh ben, ce jus qu'on a tiré au clair, eh ben, il commence à fermenter. Alors, nous, on l'a fermenté en cuve.
Pendant combien de temps?
Ça a duré quoi? Une fermentation, ça dure pas non plus trop longtemps, mais ça a dû durer 2 semaines, 3 semaines, quoi.
Ouais, 3 semaines. Parce qu'en fait, on fait des fermentations à basse température, donc la fermentation est bien plus lente. Oui, ça dure 3 semaines. Ouais, ça dépend. Ça dépend les levures. Il y a des levures des fois qui sont plus courageuses que d'autres, donc ça va plus vite. Ça fermentait à 12, entre 12 et 15 degrés de température, donc ça va très lentement. Mais c'est un choix. C'est un choix pour. C'est nous qui le faisons ce choix. On a la possibilité d'avoir des cuves thermorégulées, donc on préfère des fermentations plus lentes que. Et accélérer les fermentations.
Et là, vous mettez rien dans le vin?
Non. On met que de l'amour dans le vin. Mmh. Non, on met rien parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à mettre. Nous, on est dans une démarche où on évite de mettre des choses. On n'en met pas parce que ça nous gêne. Et puis c'est pas vraiment nécessaire.
Donc là, au bout de 3 semaines, il y a une première fermentation. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Nicolas?
Eh ben ensuite, donc souvent là, on va laisser le vin se tranquille. Hein, on va le laisser de nouveau. En fait, la fermentation, elle recrée un dépôt. Toutes les levures mortes, puis tout ce qui est resté d'avant, etc. Ça va se redéposer. Donc on va faire un soutirage au bout d'un certain moment. Ça dépend vraiment.
Vous goûtez, j'imagine, en permanence?
Tout le temps, ouais.
Ouais.
Tout le temps. L'outil principal des vendanges, au-delà des cuves et des pompes, c'est notre palais. C'est comme ça que on décide en goûtant. Après, on va envoyer quelques échantillons dans les laboratoires parce qu'il y a des choses qu'on a envie de savoir. L'acidité volatile, par exemple, c'est important. Comment est-ce que l'inertie fermentaire? Enfin, il y a plein de choses.
Ça, c'est qu'est-ce que ça crée? Tout ce que tu dis sur le vin.
En fait, déjà, on a envie de savoir comment notre cuve fermente. Alors, déjà, on l'écoute, c'est-à-dire qu'on l'entend buller, on entend que ça fermente. On peut même toucher la cuve, elle est chaude, on voit que ça bouge à l'intérieur. On la goûte. Ensuite, on a des outils nous à la cave qui nous permettent de voir que le sucre, la densité, en fait, on regarde la densité du jus et ça nous permet de voir que l'évolution et on voit que le sucre se dégrade au profit de la création d'alcool et donc du coup ça veut dire que la fermentation se passe bien. Après de temps en temps on a envie d'avoir surtout c'est en fait on envoie des échantillons surtout à la fin parce que il va rester je sais pas moi 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes de sucre. Et ça, en fait, on se rend plus trop compte dans la cuve ce qui se passe. Nous, nos outils sont pas assez précis. Donc pour voir un peu la fin de fermentation, on peut envoyer des échantillons au laboratoire. Et puis nous, on regarde nos vins au microscope pour savoir... on fait regarder nos vins au microscope pour savoir ce qu'il y a comme flore microbienne dans nos vins. Donc il y a les levures qu'on aime bien, qui fermentent, etc. Mais il y a des levures ou des bactéries qu'on n'aime pas. Et celles-là, on n'a pas envie qu'elles se développent. C'est un milieu vivant, hein, le vin. On n'a pas envie qu'elles se développent parce qu'elles peuvent donner des mauvais goûts. Ou même carrément faire piquer le vin en vinaigre, quoi.
En fait, la microbiologie, ça nous donne ce qui va se passer dans le vin. En fait, on voit comment le vin va... Par exemple, si vous voyez des bactéries, vous savez, si elles se mettent en chaînette, vous savez que vous allez avoir une montée de volatile. Alors, on fait beaucoup de microbiologie depuis très longtemps. On a un microscope... qui nous permet de faire des comptages de levures, comptage évaluation des bactéries, identification des levures qui nous permet d'avancer dans la, de notre façon de mener notre fermentation.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, du coup, la vinification pour un rouge?
Donc, pour les rouges, alors, c'est un peu différent. Donc, nous, on fait, bien sûr, on récolte à la main, vendange manuelle. On rentre les raisins. On commence à mettre un peu de, on met un peu de gaz carbonique au fond de la cuve par injection de gaz sous pression.
Ça permet quoi?
Ça permet d'enlever l'oxygène, déjà. Après, on remplit la cuve, on la ferme et on n'y touche plus. Donc, on a une fermentation, au départ, on a une petite fermentation levurienne qui se fait dans les jus au fond. Et en fait, la plus grosse fermentation, c'est enzymatique, c'est fait à l'intérieur des baies. C'est ce qu'on appelle une carbonique ou semi-carbonique. Ça dépend les... Donc, il y a une fermentation qui se produit pendant plusieurs jours. Donc, nous, on suit avec, on goûte tous les deux fois par jour les vins. On les écoute. On regarde les densités. Si la densité baisse, ça veut dire qu'on a une fermentation qui se, donc tout va bien. Donc, on suit ça et ça, alors ça dépend. Il y a des fois, ça dure 20 jours, des fois, ça dure 15 jours, des fois, ça dure 25 jours, suivant la qualité des levures engrangées. Après, ces vins, au bout d'une fermentation qui peut varier entre 15 et 20 jours, ils sont pressés. On a une presse pneumatique. Les vins, donc, sont pressés. Ils sont refroidis. On les refroidit.
Ça veut dire quoi, juste une presse pneumatique?
C'est-à-dire un pressoir, au lieu que ce soit un mécanique. C'est-à-dire que c'est une baudruche qui gonfle, qui presse les raisins et qui permet d'avoir un pressage très cool, souple, quoi, sans brutalité. Donc, on fait un pressage assez souple. Après, on refroidit les vins. On les met à la sortie du pressoir, on les met à 10-12 degrés, suivant les années. On les laisse décanter pendant une nuit ou deux nuits. On les soutire au froid. On les soutire au clair. Et on les laisse après fermenter à basse température pendant la durée qu'il faut. C'est-à-dire, ça nous permet d'enlever toutes les premières bourbes un petit peu qui pourraient relarguer certains goûts pas toujours agréables. Donc, ça nous permet de les enlever pour avoir une fermentation dans un milieu limpide et on fait des vins un peu plus fins, tout ça. C'est ce qu'on cherche de faire. Puis après, fin de fermentation. Donc là, les fermentations se font dans des cuves thermorégulées à 18 degrés. Et quand elles arrivent à, qu'est-ce qu'il reste plus que 5-6 grammes de sucre, à ce moment-là, on les met dans les foudres en bois qui sont là, pour la fin de fermentation. Et après, on les retouche plus pendant jusqu'à l'utilisation pour la mise en bouteille.
Ça dure combien de temps?
Alors, ça dépend. Ça, des fois, ça dure... On a une première jet qui est en Beaujolais nouveau. Ceux-là, ils n'ont pas le temps d'aller dans les foudres. Mais autrement, ça dure un an, 6 mois. Quand on a besoin, on embouteille, quoi.
C'est quand vous avez besoin ou quand vous jugez que le vin est à maturité?
En général, le vin et les besoins sont à peu près gérés. Par exemple, les premiers vins de l'année, on les utilise au mois de mai de l'année d'après, quoi.
Souvent, le vin nature s'extrait des appellations d'origine protégées ou contrôlées. Est-ce que c'est votre cas?
Non, nous on a toujours essayé de rester dans les AOC de l'époque. Par contre, on a été exclu par la profession d'accès aux AOC. En dégustation, ils nous recalaient nos vins parce qu'on n'était pas dans les années 80, c'était compliqué, quoi. Depuis quelques années maintenant, les dégustations obligatoires ont évolué. Les gens qui sont en dégustation, les viticulteurs qui sont là pour déguster les vins de leurs collègues, ils ont un peu plus d'ouverture, certains. Donc on a moins d'échecs au niveau des agréments. Mais c'est pas le cas de toutes les régions. Hein. C'est vraiment et le Beaujolais, nous on a été quand même les premiers à l'époque de faire revivre les vins de nos grands-parents et Donc il y a une, je pense que c'est dans le Beaujolais où il y a le plus de vin nature que dans certaines autres régions. Quoique maintenant, ça s'est un petit peu diffusé, tout le monde a un petit peu... Mais moi, je suis assez fier du combat qu'on a mené avec Lapierre, Foyard, Thévenet et Max, enfin le petit Max, on l'appelle, parce que on a gardé ce fil rouge allumé depuis l'époque de nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui, la génération des trentenaires et tout ça. Si ce fil rouge avait été éteint pour des raisons assez évidentes à l'époque, parce qu'ils ont tout fait pour qu'on arrête de faire ce type de vin, je suis pas sûr que la viticulture ait pu rallumer le fil rouge. Donc moi, je suis assez fier d'avoir passé le flambeau de nos parents, grands-parents, à nos enfants aujourd'hui.
Et vous devez être fier que ces vins aujourd'hui soient recherchés. En tout cas, dans beaucoup de régions en France, on cherche aujourd'hui à boire du vin nature.
Oui, bien sûr, je suis assez fier. Et puis, mais c'est un peu un retour. Tout le monde veut des œufs de la ferme, du cochon, du petit éleveur. Donc, c'est une tendance générale. Par contre, la vin nature, c'est pas forcément qualitatif. Hein, ça peut être nature et très mauvais, quoi. Alors voilà, c'est comme ça. Parce que il y a des gens qui se lancent dans le vin nature, qui ont pas la connaissance. Et puis qui se plantent, comme nous on s'est planté dans les années 80, on a eu aussi quelques déboires. Donc on a un peu d'expérience maintenant, on essaye de pas se planter, mais c'est toujours compliqué les vins nature, parce que vous êtes c'est comme un trapéziste qui fait du trapèze à 20 mètres de haut et puis qu'il y a pas de filet, quoi. On est toujours à la limite de la sortie de route, quoi. Donc il faut être très vigilant et ceux qui se plantent aujourd'hui, ils seront bons demain. Hein.
Est-ce que vous êtes quand même obligé de mettre un peu de soufre?
Alors, ça dépend les années, ça dépend les pH. On en met, nous, sur les vins, en règle générale, quand on s'autorise à en mettre, on n'excède pas 2 grammes hectolitres. Donc, c'est 20 mg, c'est peanuts, quoi. Sur l'export, tout ça, ou le grand export, où on a des vins qui sont des fois trimballés. Aujourd'hui, en ce moment, on a des problèmes d'export avec les containers maritimes qui restent calés pendant 2 mois dans un endroit plus ou moins tempéré. Donc les vins sont plus fragiles. Donc quand on vous expédie des vins au grand export, il faut que le vin il arrive avec la qualité que vous aviez décidée, quoi. Donc, il faut se protéger un petit peu, quoi.
On dit souvent que les blancs sont plus sulfités que les rouges, c'est vrai?
Oui, parce que le blanc, ça s'oxyde beaucoup plus vite que le rouge. Mais c'est la réputation, c'est le mal de tête hein, qui décide de... Quand vous avez mal, les gens disent « je supporte pas le blanc », c'est pas le blanc qui supporte pas, c'est le mal de tête, parce que c'est le soufre qu'il y a dans le blanc. Souvent, les gens sont des a priori un peu courts, raccourcis. Quoi. Ils disent, j'aime pas le blanc, je peux pas, je supporte pas. Mais en fait, c'est le rouge, le soufre. Si vous vivez du rouge qui a beaucoup de soufre, vous le supportez pas non plus. Hein. Mais le soufre, il y en a dans beaucoup de produits hein, agroalimentaires.
Et vous nous dites que vous vendez certains de vos vins en grand export. Quelle est la part qui est consommée localement et la part qui est exportée?
Alors, le grand export, c'est-à-dire... en dehors de... On fait à peu près 70% à l'export. Non. Après, le reste en France... Quand on parle de grand export, on parle pas de l'Europe. Hein, on parle des États-Unis, Canada, Japon, enfin toute l'Asie, tout ça.
Donc pour vous, ce marché, il est indispensable?
Ah oui, pour nous, il est indispensable. En fait, on cherchait pas spécialement ce grand export, mais en démarrant dans les années 80, des vins nature, le fait, c'est que les gens étaient déjà, dans certaines régions du monde, ils étaient plus sensibilisés déjà à la nature que nous en Europe, quoi. Donc, nos vins ont commencé à voyager à cette époque-là, et au Canada, ils étaient plus proches que nous de la nature, ils étaient plus proches de... Alors que nous, dans les années 80, les gens, ils buvaient ça. Nature, c'était...
Un gros mot.
Ouais, c'était presque une injure.
Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau label là, qui vient d'être autorisé par la DGCCRF qui s'appelle 20 méthodes nature?
Ouais, tous ces trucs-là, les labels, ils nous pompent l'air avec leurs labels. Ils sont toujours après nous en avancer à nouveau. On sait plus ce qu'on boit, on sait plus ce qu'on mange. Il y a le label rouge, le label bleu, le label... C'est bon, hein. Moi, les cadres, c'est... Moi, je suis... Non, moi, ça me... Je m'en fous complètement de ces cadres.
Mais toi, Nicolas, t'as voulu labelliser le domaine en bio. Est-ce que, justement, le vin nature, on a tendance... à penser qu'il y a un peu à boire et à manger, si je peux me permettre l'expression, dans les gens qui font du vin nature, est-ce que ça permet pas quand même d'assurer certaines choses et de fixer un cadre?
Le label bio, c'est quand même un label qui a du sens, dans le sens, enfin, il est européen, il existe depuis longtemps, c'est un cadre très précis, voilà.
C'est la culture.
Et puis ça concerne la vigne et la culture, donc c'est quand même un cadre assez restrictif. Pendant 3 ans, on peut pas labelliser notre récolte en bio. Enfin, bon, c'est quand même quelque chose. Pour moi, c'est un label qui a du sens. Par contre, après, effectivement, il y a tout un tas de labels. Je m'y retrouve pas, quoi. Il y en a trop.
Mais le label de vin nature, ça te parle? Ça te paraît être un progrès?
Moi, ça me parle pas. Par exemple, on parlait tout à l'heure. Il y a pas que le vin. C'est effectivement une mode. On a envie d'acheter les œufs des poules d'à côté, le cochon du voisin, et puis les fromages du type qui est dans le village. Mais en fait, moi, j'ai pas besoin du label parce que le gars, je le connais. En fait, mon fromage, je vais l'acheter chez lui. Et dans les vins nature, c'est un peu ça. Je pense que les labels, j'en sais rien. Moi, ça met un cadre et ça prémâche un peu le travail aux gens. C'est-à-dire que est-ce qu'il vaut mieux un label ou est-ce qu'il vaut mieux aller chez son caviste, avoir confiance en son caviste qui va vendre le vin en décrivant le vigneron, en décrivant le travail du vigneron, etc. Moi, je sais pas, j'ai plutôt tendance à croire en l'humain plutôt qu'en une image sur une étiquette, quoi.
Mais t'as quand même voulu te labelliser.
En bio. D'accord. Ouais.
Donc tu fais confiance au label bio.
Ouais. C'est parce que c'est un label qui a fait ses preuves. Voilà. Et nous, on mettra pas le label sur l'étiquette. Ça sera pas mentionné. C'est pour nous qu'on le fait. C'est pas pour les autres, quoi.
C'est l'empreinte que Nicolas a voulu imposer dans le domaine. Voilà, c'est son truc à lui. Nous, on mettra pas sur... Enfin, après, ils feront ce qu'ils voudront, mais je pense pas qu'on va se servir de ça au niveau... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans des logos, des machins, des labels, pour des raisons commerciales, hein, faut pas oublier. Donc, ça fausse un peu la donne. Nous, on fait du vin pour nous, pour nos amis, pour nos clients, avec passion. Le label, on n'a rien à branler de ça. Ça sert à amuser les... Si nous, le viticulteur, les gens comme nous, sont pas capables d'aller faire des salons, d'aller voir des cavistes, des marchés, expliquer le produit, s'ils ont besoin d'un label, tant pis pour eux, quoi.
Oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le métier de vigneron, c'est aussi un métier de commercial.
De plus en plus, oui. Aujourd'hui, vous êtes vigneron, vous êtes commerçant, vous êtes voyageur de commerce, vous prenez l'avion, vous allez vendre du vin aux Américains, vous allez faire des salons, on fait des salons à l'étranger, un peu partout. Donc, faut être capable de parler de son vin, de le mettre en avant. Si vous faites le meilleur vin du monde, puis que vous êtes le seul à le savoir, faut le boire après. Ça fait compliqué. Donc, il faut faire passer les messages, on reçoit beaucoup de gens. La semaine passée, on avait des Canadiens qui sont restés 3 jours à la maison. On reçoit beaucoup d'étrangers pour leur expliquer, on les emmène dans les vignes, on leur fait toucher le produit, quoi. Et aujourd'hui, ça fait partie d'une démarche pratiquement obligatoire pour un viticulteur qui veut vendre son produit avec son étiquette et son appellation. Il est pratiquement obligé de le faire voir et d'avoir une grande partie de son activité commerciale.
Vous avez fait plusieurs métiers dans votre vie?
Oui, j'ai fait des métiers qui étaient assez rémunérateurs, qui m'ont permis de m'installer dans la viticulture avec un confort, sans être obligé de regarder le banquier, le Crédit Agricole, le ciel, le tonnerre et la grêle, avec une angoisse forte, parce que j'avais un métier qui était rémunérateur, qui m'a permis de me payer la qualité. La qualité se paye aussi quand vous faites des vins nature. Et des fois, vous allez juste à la limite de l'accident et il faut quand même avoir un plan B.
C'était quoi ce métier ?
Et les tonneaux, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Donc, quand vous voulez faire votre travail correctement, il faut énormément d'argent en vin nature. Il faut plus de mettre plus de moyens financiers sur la table que dans des vins dits traditionnels.
C'était quoi ce métier rémunérateur ?
Ben, j'ai eu des entreprises. J'ai eu une entreprise où dans les années 80, j'ai inventé une machine pour déboucher les bouteilles. Donc, je débouchais les bouteilles à des cadences assez élevées. On faisait à peu près 4000 bouteilles à l'heure. La bouteille était prise, débouchée, vidée, remise en box palette. Le vin, on séparait le carton, le bouchon, le plastique et le vin. Et on voyageait dans toute l'Europe pour déboucher des lots importants de vins qui avaient des problèmes au niveau qualité, au niveau bouchage, au niveau étiquetage, au niveau... voilà. Donc ça, j'étais le seul à faire ce genre d'activité, ce qui m'a permis de gagner énormément d'argent, sans honte.
C'est possible d'être viticulteur aujourd'hui sans avoir un matelas financier ?
Ah, il faut se le faire, le matelas financier, et c'est pas facile, quoi. C'est pas facile parce qu'il faut aller chercher les clients. Déjà, quand vous allez installer, la première récolte, il faut presque 18 mois avant de la mettre dans une bouteille et puis de commencer à en vendre. Donc, il faut déjà manger pendant 18 mois. Il faut pouvoir traiter la vigne pendant 18 mois. Il faut pouvoir subvenir à vos besoins matériels. Et quand vous commencez à vendre votre vin, il faut déjà aller le vendre, il faut trouver des acheteurs, et il faut que vous ayez une récolte, parce que la nature peut bien, la première année, vous pouvez bien grêler ou geler, donc c'est ça qui est difficile dans ce métier. C'est qu'on a des éléments qui sont pas maîtrisés, donc qui sont pas maîtrisables, donc il faut quand même, c'est nécessaire d'avoir un petit peu d'argent de côté, quoi.
Comment t'appréhendes ça, toi, Nicolas?
Bah moi j'appréhende ça sereinement, avec patience. C'est-à-dire que faut surtout pas vouloir aller trop vite. Et avant de se lancer, il faut d'abord bien apprendre et bien comprendre les enjeux importants, parce qu'on peut pas tout savoir. Moi je vais apprendre toute ma vie, mais les gros enjeux. Et puis mettre de côté pour faire l'avance sur la première année, quoi. C'est super important. Et puis il y a quelque chose, il faut pas hésiter aussi à aller chercher du raisin chez les autres, quoi. On en parle assez peu et parfois c'est un peu tabou, mais acheter du raisin, c'est un bon levier.
Pour démarrer, c'est
pour
sûr.
Démarrer, c'est un bon levier. Ouais.
Pour démarrer, comme Nicolas par exemple, lui il a son salaire ici en tant que chef de culture, il pourrait éventuellement trouver, il va certainement le faire, je pense que ça va se passer comme ça, il va trouver un hectare de vigne chez un voisin, un ami, et qui va venir en parallèle jusqu'au moment où il va pouvoir s'éclater à 100%. Mais ça peut d'arriver à 100% s'installer dans la viticulture, c'est compliqué, hein. Parce que la vie est dure et c'est long, quoi. Tout est long. Si vous voulez, vous arrivez aujourd'hui pour investir dans la viticulture en Beaujolais, vous allez investir des vignes déjà qui sont en chimie. Déjà, d'entrée, vous n'avez pas trouvé de vignes en bio. En général, les gens qui mènent leur culture en bio, qui sont en vin nature et tout ça, ils sont pas vendeurs de vignes. Donc, on trouve des vignes qui vont être en chimie pour les remettre en route. C'est tout un truc à longue haleine. C'est compliqué, quoi. Mais faut pas décourager les gens. Mais à mon avis, il faut venir travailler dans le Beaujolais. S'installer à travailler chez d'autres viticulteurs et puis regarder ce qui se passe et bien apprendre et après se lancer. Les gens qui arrivent, même avec beaucoup d'argent, on peut perdre beaucoup d'argent sur quelques années. Hein.
Je voudrais poser une question un petit peu plus politique. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, qu'est-ce qui vous aiderait comme mesure politique potentiellement pour votre activité, pour promouvoir davantage les vins nature ?
Voilà, la politique, moi j'attends pas beaucoup de la politique. Moi je pense que politiquement, il faudrait qu'ils arrêtent de nous casser les burnes avec leurs papiers à remplir tous les matins, des trucs à la con, là, des douanes, des machins, des... alors qu'il y aurait beaucoup de possibilités de simplifier, le, tout en ayant la même vigilance de contrôle, de simplifier tous ces papiers. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait moins de merdier d'administratifs à faire dans une exploitation viticole. Mais je pense que c'est général. Le plombier, c'est pareil. Le charcutier, il passe 3 jours à faire du saucisson, puis 4 jours à faire des papiers. Vous croyez que c'est intéressant pour la profession, ça ?
Nicolas, toi, t'as une mesure à promouvoir ?
Bah, moi, je suis un peu d'accord avec le chat sur l'administratif, parce que c'est vrai que c'est vraiment c'est un frein. C'est un frein et puis après peut-être que ça serait bien de au niveau scolaire, je veux dire on en parlait tout à l'heure aussi, l'éducation, ce serait peut-être bien que de changer un peu les programmes.
Voilà. On dit souvent que le vin est une exception aussi, on n'est pas obligé de mettre les ingrédients qu'il y a dans le vin. Est-ce que obligé à savoir ce qu'on a dans notre vin justement?
Ouais, mais c'est toujours un peu une surcharge de tout quoi. Alors oui, pourquoi pas, en théorie, c'est bien de mettre tout ce qu'on met dans le vin. Moi, je suis pas contre, mais personne ne lit les étiquettes. Alors aujourd'hui, ils sont pour les produits dans la grande surface, ils sont obligés de mettre des couleurs parce que les gens savent pas lire. Alors, si nous on met des étiquettes avec des marquages de tout ce qu'il y a, alors il y a certains vignerons et puis ou négociants, ils vont avoir des difficultés à tout écrire ce qu'ils mettent dedans. Après, vous savez, les gens qui achètent leur vin dans un supermarché parce qu'ils reçoivent le beau-frère le dimanche, et ben ils achètent l'étiquette, ils achètent c'est rare. Les gens qui achètent dans les supermarchés, souvent, c'est des gens qui s'impliquent pas vraiment dans la recherche de qualité ou de... Les gens qui vont chez les cavistes, ils disent, je vais voir mon beau-frère, on va faire une blanquette, qu'est-ce que tu me conseilles comme vin? Là, il y a des gens qui sont capables de renseigner. Et pas uniquement du visuel et puis d'écrire tout ce qu'il faut. Enfin, moi, je pense que plus on en met sur une étiquette, en moins les gens la lisent. Donc, quel intérêt de marquer sur l'étiquette ? C'est sûr qu'au niveau, pour moi, ma philosophie, j'aimerais bien que les gens aient un logo des vins qui ont beaucoup de chimie, qui ont leur obligé à mettre un logo. Voilà, si on veut mettre des logos partout, mettre un logo. Mais je vois pas pourquoi nous on mettrait des logos pour bien faire notre travail et puis que ceux qui abîment notre profession avec des produits, des entrants dangereux, eh ben ils ont pas le logo du produit dangereux. Alors, mettre une tête de mort au milieu de l'étiquette, je sais pas si ça marcherait bien ça. Hein?
Je suis pas sûr. Pour conclure, je voudrais vous demander à tous les deux votre conseil pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans le métier de vigneron. Peut-être commencer par toi, Nicolas.
Eh ben, moi, j'ai peut-être piqué la phrase du chat, mais faut toujours penser à remplir la gamelle. Voilà. Parce que c'est beau, les rêves et l'utopie de devenir vigneron ou agriculteur en général, mais ça coûte des sous et c'est beaucoup de travail. Et c'est très fatigant, mais voilà, faut pas oublier son confort et il faut pas oublier que de bien manger, de vivre dans un endroit confortable, et ça, il faut surtout pas l'oublier, parce que on peut partir avec des grandes idées et tout, mais si au bout de 2-3 ans, on a faim, on a froid et voilà, on arrête de travailler quoi, parce qu'en fait, c'est plus possible. Donc faut partir avec les bonnes bases.
On dit dans le Beaujolais pour faire une petite fortune, faut venir avec une grosse fortune. Voilà. Non, le métier de vigneron, c'est des métiers très difficiles, exigeants, et des fois la nature te met des grands coups de latte qui te remettent à ta place. Et donc, moi, je souhaite beaucoup de courage aux gens qui veulent s'installer là-dedans. Je décourage pas, mais je leur dis, faites-vous bien accompagner et prenez un guide et écoutez-le. Parce que Les vignerons qui arrivent avec les nouveaux, les néo-ruraux qui arrivent avec des petites chaussettes blanches et puis qui restent 3 ans sur une exploitation puis qui repartent avec manger l'argent du papa, l'argent du beau-père et tout. Moi, j'en connais beaucoup, quoi.
Vous êtes heureux aujourd'hui dans votre métier?
Moi, j'ai toujours été heureux dans tout ce que j'ai fait parce que j'ai toujours fait des choses que par la passion. Et la passion, c'est le meilleur moteur du bonheur.
Moi, je suis très heureux parce que j'ai la sensation de m'exprimer.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill d'Écotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.écotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.